Chacune, c'est une joie d'être avec vous ce matin. J'étais aussi heureux de pouvoir être accompagné de ma fille Eva. Elle m'a dit, ah, tu vas prêcher à bien, ah, maman, je viens. Je viens, elle était réjouie de venir avec moi et de vous rencontrer aussi. C'est toujours un privilège d'être un privilège et toujours aussi un petit stress, mais c'est toujours un privilège de parler de Dieu. C'est toujours un privilège de parler de Dieu et de ce qu'on a découvert, trouvé dans sa parole. On a fait des vacances et puis quand on fait nos vacances, on aime toujours bien aller visiter autant des églises évangéliques, si j'ose dire ça comme ça, ou aussi visiter des églises catholiques dans la région là où nous sommes. Et on a fait 3 semaines de camping-car, puis on a bien voyagé. Mais on est arrivé en France, et puis on allait visiter une église, et puis j'étais interpellé dans la visite où tout d'un coup, enfin c'est Claudia qui m'appelle, puis qui me dit, ah, viens regarder qu'est-ce qui a marqué ici. C'était dans le coin où il y a pour la confession, hein, la confession. Et il y avait une petite prière qui était écrite, et j'ai trouvé cette petite prière très pertinente et très profonde. Où, par exemple, la personne qui veut faire pénitence, il y avait au début de la phrase, c'était Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché contre toi et contre mes frères. Et j'étais beaucoup interpellé par rapport à ça. Et ce matin, on a aussi lu, on a aussi chanté qu'il est celui qui est mort à la croix à cause de nos péchés. Mais est-ce qu'on a pris conscience que quand on a péché contre Dieu et aussi contre ses frères? Jésus à la croix, il a porté nos péchés et nos injustices. Mais nos injustices, c'est quoi? C'est le péché de nos frères. Et nous sommes tous ici victimes d'injustice. On a tous péché, mais on est aussi tous victimes d'injustice. Et quand on va vers Dieu pour lui demander pardon, parce que nous avons péché contre lui. Et dans la prière de notre Père, il est dit, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et je crois qu'il y a quelque chose de puissant que dans notre vie chrétienne, encore plus, de pouvoir accorder le pardon à celui ou ceux qui nous auraient offensés, afin que nous puissions vivre ici-bas libres. Libres. Et que notre passé ne nous rattrape pas. Et je crois ce matin, dans le passage que je vais lire, que je vous donnerai la référence juste après, que Jésus aimerait encore venir, je vais le dire de cette manière, te visiter par rapport à ton passé. Parce que peut-être il y aurait encore des choses à guérir, à restaurer, afin que nous soyons, que tu sois réellement libre. Comment savoir si je suis libre de mon passé ou pas? Ben, d'une manière globale, s'il y a des choses dans ta vie que régulièrement, enfin, quand je dis régulièrement, des fois, ça peut être tous les 3 mois, ou ben, tous les 6 mois, du coup, bam, tu en reparles. Des choses que tu as vécues peut-être dans ton enfance, ou bien peut-être dans tes jeunes années, du coup, on revient et puis on en reparle. Quand on en reparle, on a le truc ici, là, tu sais. Ben, peut-être, il y aura encore des choses à guérir. Ou bien des choses aussi que j'ai découvert, les rêves qu'on fait. Des rêves qui se répètent. Le décor est un peu différent, mais l'histoire reste la même. Où tout d'un coup, on fait ses rêves, on se lève le matin, puis oh, on n'en parle pas trop, puis oh, j'ai fait un rêve bizarre, puis voilà, on essaie de l'oublier, puis on entame notre journée. Mais peut-être c'est toutes des choses où le Christ aimerait pas que tu fasses l'autruche sur ces choses, mais peut-être il aimerait te guérir. J'aime beaucoup la parole du prophète Ésaïe 61. C'est devenu une parole vraiment un peu leitmotiv dans ma vie, où il dit, ah, j'ai reçu l'onction pour venir guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et dans les évangiles, j'aime toujours essayer de chercher et de voir, mais où est-ce que Jésus a appliqué cette parole? Alors il le dit dans Jean 4, quand il revient de la tentation dans le désert, où il arrive de la synagogue et puis il lit ce passage d'Ésaïe 61, puis il dit, cette parole est accomplie. Hein, puis il est venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Il est Jésus, le Messie. Il est le Christ, le Messie, il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur du monde. Et il veut venir sauver nos vies. Il veut venir sauver nos vies, il veut changer nos cœurs, il veut nous transformer de l'intérieur, il aimerait venir guérir nos entrailles. Afin que nous puissions avoir des entrailles comme notre Père, qui est des entrailles de miséricorde, de compassion, de pouvoir, oui, avoir de la colère contre toute injustice. Comment est-ce que l'Église se positionne sur les questions de l'avortement? Comment l'Église se positionne sur des situations éthiques dans notre société? On parle par exemple d'exit, hein? Et toutes ces choses, et à un moment donné, est-ce que l'Église se tait? Ou est-ce qu'elle ouvre sa bouche puis elle donne son avis? Le passage que j'aimerais lire avec vous, alors j'arriverai pas à tout lire parce qu'il est un peu trop long, mais ce sera les premiers chapitres, les premiers versets. C'est dans Jean 4. Jean 4, c'est cette rencontre de Jésus avec une femme. On sait pas son prénom, mais on sait d'où elle vient. Elle vient de la Samarie. C'est la femme samaritaine. Alors, je vais lire les 7 premiers versets pour commencer. Jean 4, verset 1. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. En réalité, Jésus lui-même ne baptisait personne. C'était ses disciples qui baptisaient. Quand Jésus apprit ce que l'on racontait, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arrive près d'une ville de la Samarie appelée Sichar, qui est proche de la parcelle de terrain que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de son voyage, s'assit tout simplement au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de la Samarie vint puiser de l'eau et Jésus s'adressa à elle. Donne-moi à boire. Il y a tout un passage après qui raconte le dialogue entre Jésus et la Samaritaine. Et si on reprend au verset 23, où Jésus dit, mais l'heure vient et elle est même déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit qui conduit à la vérité. Car ce sont des tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'Esprit qui conduit à la vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. Jésus lui répondit, je le suis, moi qui te parle. C'est vraiment intéressant tout ce passage de la femme samaritaine. Vous avez déjà entendu plusieurs prédications, messages, tout le monde l'a déjà lu plusieurs fois, on la connaît cette histoire. Et à travers tout ça, j'aimerais enfin nous encourager et aussi peut-être amener quelque chose peut-être de nouveau par rapport à ce texte. Ce qui m'interpelle dans ce passage, c'est Jésus qui vient vers cette femme, enfin qui est en Samarie. Et puis là, l'élément qui est intéressant de voir, c'est que Jésus a précédé la femme. Jésus a précédé la femme. Et puis juste avant Jean 4, c'est quoi? Jean 3. Jean 3, c'est quoi? C'est Jésus qui discute avec Nicodème, ok? Et puis après la rencontre avec Nicodème, mais Nicodème il se gratte la tête pour savoir comment il allait retourner dans le sein maternel de sa mère, parce que Jésus lui dit que pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut être né de nouveau, hein. Puis il essaie de réfléchir. On parle de Nicodème, docteur d'Israël, hein, enfin un homme intellectuel, une connaissance de la Bible, de l'Ancien Testament. Et puis il va aussi dire à Jésus. Il se pose des questions de son identité. Mais une chose qui l'interpelle, puis qui lui dit, Nicodème, bon, avec tous les miracles que tu fais, une chose qui est sûre, c'est que Dieu est avec toi. Mais il n'arrive pas à discerner qui il est. Et ici, dans ce passage avec la femme samaritaine, d'une manière claire, mais claire, plus claire que ça, on ne le peut pas, là, cette femme, elle dit, mais on sait que le Messie va venir, il va nous dire les choses. Et Jésus lui dit de manière claire et précise, je le suis. Il lui dévoile son identité, il lui dévoile qui il est d'une manière puissante. Et ensuite, après cette femme, elle retourne dans son village. Elle retourne dans son village et elle dit cette phrase très particulière qui dit, eh, venez voir un homme qui m'a dit toute ma vie. Venez voir un homme qui m'a dit toute ma vie. Et à la fin du chapitre 4, dans ce village de Samarie, parce qu'aussi ce qui est important à savoir, c'est que il y avait de l'hostilité entre les Juifs et les Samaritains. Il n'y avait pas d'amour, hein. Il y avait beaucoup de, même de haine entre eux. Un Nicodème qui n'arrive pas à discerner l'identité de Jésus. Mais à la fin du chapitre 4, à la fin du chapitre 4, dans cette ville, voici ce que les villageois disent au verset 42. Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes, et accrochez-vous, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et c'est magnifique ce passage où il y a toute cette révélation du Christ à qui, si on prend l'opposition entre Israël et la Samarie, mais tout le coup, c'est cette révélation à cette nation, à ces gens qui étaient méprisés, pas aimés, Jésus se révèle et ces gens savent que lui, il est vraiment le sauveur du monde. Pendant ce temps que Nicodème essaye encore, un docteur de la loi, essaye encore de chercher. Ensuite, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que au tout début, j'ai lu, c'est intéressant, au tout d'un coup, hein, les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Ah, il y a comme une, c'est les pharisiens qui amènent comme une rivalité un peu entre le groupe de Jésus puis le groupe de Jean-Baptiste, hein. Et puis, mais c'est intéressant, il dit, mais en réalité, c'est pas Jésus lui-même qui baptisait, c'est ses disciples. Et ce qui est intéressant, c'est que dans tout le passage de Jean 4, c'est Jésus qui sauve, mais c'est l'Église qui est appelée à accueillir tous les nouveaux et à les baptiser. Et je crois que le Christ, encore aujourd'hui, est celui qui sauve, et c'est pas l'Église qui sauve, hein, c'est le Christ. Mais le rôle de l'Église, c'est de pouvoir accueillir toutes ces nouvelles brebis qui arrivent et qu'on les baptise. Hein. Le baptême, c'est vraiment le signe de l'alliance. Dans le baptême, il y a vraiment cette image où on s'identifie au Christ et c'est l'entrée dans la famille de Dieu, dans l'Église. Et ça appartient aux disciples. Parce que par rapport à ça, une fois que la femme samaritaine a quitté l'endroit où elle était avec Jésus, puis retourne, c'est les disciples de Jésus qui reviennent. Et puis au verset 34 et 38, Jésus va dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de terminer le travail qu'il m'a été confié. Moi, je vous dis, levez les yeux, les champs sont mûrs et prêts pour la moisson. Et aujourd'hui encore, cette parole est d'actualité. L'Église doit lever les yeux et dire oui, la moisson est mûre. Le Christ œuvre à travers nos prières. Elle œuvre et il sauve. Les champs sont mûrs et nous devons avoir foi dans nos prières et croire que le Seigneur agit à travers nos prières et sauve, parce qu'il est venu Jésus, non pour condamner les gens, mais pour les sauver. Il est venu pour sauver les gens. La chose qui m'a interpellé, et c'est là que je vais mettre un peu l'accent sur ce passage de Jean 4, c'est un petit peu, on voit ça à partir du verset 5, au niveau géographique par rapport à ce lieu. Il est dit, il arrive près d'une ville de la Samarie appelée Sichar, qui est proche de la parcelle de terrain que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Et ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, ici, dans le texte, il nous donne environ le lieu où Jésus se trouve et qu'est-ce qui s'est passé auparavant. Voilà Jésus qui arrive dans ce lieu où on voit dans Genèse 33, verset 19, Jacob qui achète cette parcelle. L'endroit où Jésus est avec cette Samaritaine, Jacob achète un terrain. On voit ça dans Genèse 33, 18 et 19, où il est dit, à son retour de haute Mésopotamie, Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem, en Canaan. Il campa près de la ville. Il acheta aux descendants de Hamor, fondateur de Sichem, la parcelle de terrain où il avait planté sa tente. Il la paya 100 pièces d'argent. Il dressa un autel à cet endroit et l'appela El, le Dieu d'Israël. Et ce qui est intéressant, l'action de Jacob dans ce lieu, là où Jésus arrive, lui le sauveur du monde, le Messie, il arrive dans ce lieu et c'est comme s'il a déjà posé quelque chose, Jacob, dans la foi, en achetant ce terrain. Et ce terrain, il l'a acheté, le texte nous le dit, 100 pièces d'argent. Et une pièce, ça correspondait à la valeur d'une brebis. C'est-à-dire qu'il a acheté cette parcelle à la valeur de 100 brebis. Et nous voyons dans les évangiles, Matthieu 18 ou Luc 15, c'est cette parabole de la brebis perdue. Et Jésus dit, si un berger a 100 brebis et qu'il lui en manque une, il va laisser les 99 pour aller chercher cette brebis qui est perdue. Et quand elle sera retrouvée, il y aura plus de joie pour elle, pour que les 99 soient restées. Et ici, dans ce passage, où Jacob a acheté cette parcelle à la valeur de 100 brebis, eh bien, la femme samaritaine est la brebis perdue. Et dans ce passage, Dieu nous montre et nous révèle tout l'amour qu'il a pour les nations. L'amour de Dieu qu'il a pour les nations. Israël et les nations. Et là maintenant, je vais un peu plus loin. L'amour de Dieu pour les Arabes. L'amour de Dieu pour les pays d'Asie. L'amour de Dieu pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'amour de Dieu pour les nations. Et ici, dans ce passage, il nous révèle son cœur. Cette femme samaritaine devient et représente les nations. Elle est la première gerbe de la moisson. Bien mûre! Et je crois que Dieu veut tellement sauver tout le monde, que nous arrivons, à mon avis, dans la fin des temps, et qu'il y aura une accélération du mouvement de l'esprit, la population augmente, et en même temps, l'esprit de Dieu va animer, va souffler. Et je crois que nous allons voir des gens arriver à l'église qu'on dirait quoi, lui? Jamais j'aurais pensé. Ben, ils vont arriver. Ils vont arriver. Parce que le Seigneur est en marche, il est en œuvre, et aujourd'hui, la moisson est mûre. Mais ce qui est intéressant aussi encore à considérer par rapport à ce lieu qui est cette ville de Salamé. En fait, on a Sichem. Qu'est-ce qui s'est encore passé? On peut voir ça dans Josué 24, les versets 32. Jacob, il avait un fils qui s'appelait Joseph. Et dans Josué 24, 32, il est dit, les Israélites enterrèrent à Sichem les ossements de Joseph qu'ils avaient ramenés d'Égypte. Ils les mirent dans la parcelle de terrain que Jacob avait achetée pour 100 pièces d'argent aux descendants de Hamor, le fondateur de Sichem, et qui était devenu la propriété des descendants de Joseph. Et au moment où Jésus il arrive dans ce lieu, il y a cette histoire de parcelle de Jacob, et en même temps, il y a les ossements. Il y a les ossements de Joseph. Joseph, qui représente comme un type de Christ, il est devenu le libérateur de ses frères d'une famine et en même temps le libérateur de tout l'Égypte. Et de nouveau, Joseph, là au milieu, est devenu, on connaît l'histoire avec Joseph, que le premier ministre, enfin même, il était presque à l'égal du pharaon, hein, à l'époque. Et puis qui devient le libérateur et le sauveur, Joseph. Et dans ce lieu où Jésus rencontre cette femme samaritaine, il y a les ossements, il y a les ossements de Joseph. Et ce qui est intéressant par rapport à Joseph, alors il est mort en Égypte, ça veut dire qu'il a été, il a été comme une momie, hein, hein, c'était une momie. Joseph va dire à ses frères. Quand vous, dans Genèse 50, quand je vais mourir, mais quand vous allez quitter cette région, parce qu'il y a quand même un pays promis qui nous attend, vous prendrez mes ossements. C'est-à-dire que quand Israël a quitté l'Égypte après 400 ans d'esclavage, eh bien, ils ont pendant 40 ans et même plus porté les ossements. Ou je dirais le cercueil de Joseph, et c'est seulement dans Josué 25 qu'ils sont déposés et qui arrêtaient de porter. Et tenez-vous bien, moi ça m'a heurté quand j'ai, enfin pas heurté, mais au niveau de la révélation, dans notre Bible il est écrit que c'est le cercueil de Joseph, ok? Le cercueil de Joseph, mais le mot en hébreu pour dire le cercueil de Joseph est le même mot pour quand on parle de l'arche de l'alliance. C'est le même mot. Et les rabbins disent que pendant la marche dans le désert, ils portaient le coffre de Joseph et le coffre de l'Alliance côte à côte. Puis qu'ils se déplaçaient comme ça dans le désert. Et un commentaire hébreu, on appelle ça les Midrash, dit, pendant la marche des Israélites dans le désert, l'arche portant les ossements de Joseph était placée à côté de l'arche de celui qui vit éternellement, parle de Dieu. Que signifient ces deux arches? Celle-ci est le cercueil d'un mort et celle-là, l'arche de celui qui vit éternellement. Mais pourquoi ce mort à côté de l'arche de celui qui vit éternellement? On leur répondit, celui qui repose dans le cercueil a accompli tout ce qui est écrit dans les tables de la loi, reposant dans l'arche de celui qui vit éternellement. Et c'est magnifique, déjà, dans un commentaire rabbinique, il y a cette dimension de quelqu'un qui est mort, mais il est mort en accomplissant toute la loi. Et Jésus, il n'est pas celui qui a accompli toute la loi. Et dans la révélation, Jésus est devant cette femme samaritaine, il y a ce puits, il y a le terrain, il y a les ossements de Joseph. Et je crois que cette femme, elle était dans la révélation, elle était dans la connaissance de ces choses. Et tout d'un coup, elle dit, mais Joseph, Jésus, et c'est toi. C'est toi réellement le sauveur du monde. C'est toi ce Messie qu'on attend. C'est toi. Et Jésus vient comme un libérateur. Pour sauver la vie de cette femme. J'aimerais encore, avant d'aller un peu plus loin, parce que à Sichem, il s'est passé encore d'autres choses. On a parlé de la parcelle de terrain de Jacob, on a parlé des ossements de Joseph. Mais vous savez où est-ce qu'il a été vendu, Joseph, par ses frères? Quand Joseph est allé voir où étaient ses frères parce que son père l'a envoyé. Et au moment tout d'un coup, dit, ah, ils étaient jaloux de lui, hein, puis qu'ils l'ont vendu. Ben, c'est à Sichem. C'est à Sichem. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont enterré ses ossements dans le même lieu où il s'est fait vendre par ses frères. Comme pour un souvenir de qu'est-ce que le cœur de l'homme, dans la jalousie et la haine, est capable de faire. Mais Dieu nous dit pas dans le prophète Ésaïe qu'il est celui qui veut venir changer nos cœurs. Changer nos cœurs de pierre et des cœurs de chair sensibles, où il veut inscrire sa loi en nous, pas juste dans notre intellectuel, mais dans nos cœurs, j'ai envie de dire, dans nos entrailles. C'est là que Joseph s'est fait vendre par ses frères. Mais il y a une autre histoire encore qui est dramatique. Dina, la fille de Jacob, qui était la fille de Léa, c'est à Sichem qu'elle s'est fait violer. Par qui? Par un homme qui voulait après être son mari. Et aussi à Sichem, je reviendrai sur ça, vous faites le lien avec la femme samaritaine? Qu'apparemment, elle avait beaucoup de maris. Mais encore une autre chose qui s'est passée à Sichem. À Sichem, on voit ça dans 1 Roi 12. C'est à Sichem que la nation d'Israël s'est divisée. Avec les tribus du nord, 10 qu'on appelle Israël, et avec les tribus du sud, qui est Juda et Benjamin. Mais c'est à Sichem que la nation s'est divisée. Voilà où Jésus rencontre cette femme samaritaine. Voilà qu'est-ce qui se passe. Et Jésus, il arrive. Et il va dire à cette femme samaritaine que l'heure vient où on adore en esprit et en vérité. Ça, dans ma Bible, il est marqué en esprit, l'esprit qui conduit à la vérité, ou si on prend dans la Louis II, c'est en esprit et en vérité. Et je pense que cette dimension où il est dit en esprit et en vérité, ça veut dire qu'on doit que aujourd'hui on va être saisi par la pensée de Dieu. En esprit, en vérité, c'est être pris dans la pensée de Dieu. L'apôtre Paul nous encourage dans Jean, dans Romains 12, être renouvelé dans notre intelligence afin de connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, juste et parfait. Et on adore Dieu en esprit, c'est-à-dire que son esprit est en nous et tout d'un coup, la pensée de Dieu, la pensée du Christ nous habite. Et l'apôtre Paul nous encourage à être renouvelés continuellement et journellement dans nos pensées. Ce que je voulais voir encore avec vous, c'est cette femme samaritaine. Cette femme samaritaine nous dit, où Jésus a un dialogue avec elle, et je trouve vraiment intéressant parce que dans tout le dialogue avec la femme samaritaine, on voit qu'il y a comme beaucoup de pudeur. Le texte ne dit pas tout. Pourquoi? Parce que Dieu ne révèle pas comme ça la vie devant tout le monde, non. C'est entre lui et nous. Mais tout d'un coup, Jésus dit, ah ben, va chercher ton mari. Puis il dit, ah ben, j'ai pas d'homme. Puis il dit, ouais, t'en as eu 6, puis l'homme avec qui tu es aujourd'hui, l'homme avec qui tu es aujourd'hui, c'est pas ton mari. C'est-à-dire que cette femme samaritaine, en plus, elle rencontre Jésus à midi. Et on sait que toutes les femmes de cette région, on vient au puits, soit le matin, soit le soir, mais pas à midi, il fait trop chaud. C'est-à-dire que elle est tellement jugée et méprisée par la société qu'elle ne peut plus venir à midi à cause de sa vie. Et ici, on a une femme, à mon avis, prise par beaucoup d'injustice. Si Dina s'est fait violer par un homme qui voulait devenir son mari, est-ce que cette femme samaritaine ne serait pas victime de viol? Et là, ce qui est dramatique, par son mari, ou ses maris qu'elle a eus. Et souvent, là, dans la société, on a On a une tendance à plutôt la victime encore à la victimiser encore, puis à la juger. Et des fois, le diable, il vient, puis il tord les choses. Mais Jésus vient, il rencontre cette femme. Et il y a une phrase dans le dialogue avec cette femme où tout d'un coup, dans la relation avec Jésus, cette femme n'essaye pas de se cacher devant lui, mais accepte que Jésus mette la vérité sur sa situation. Et Jésus va répondre à la femme, tu as donc dit vrai. Et Jésus honore le fait que cette femme accueille la vérité que Jésus lui dit. Et ça, c'est le début de la guérison et de la restauration. De pouvoir accueillir la parole de Dieu qui vient à nous et qui nous amène dans la vérité, mais pas la vérité de Jésus est bon, mais la vérité de nos vies. Et Jésus, d'une manière puissante, et c'est là que je pense que tout n'est pas dit dans le texte, il est en train d'accomplir le prophète 61. Il est en train de guérir cette femme de son cœur brisé. Et pour pouvoir guérir nos cœurs brisés, une chose qui est sûre, c'est qu'elle a dû accorder un pardon à tous ceux qui lui ont fait du tort. Elle a sûrement dû accorder un pardon aux gens du village, à toutes ces femmes qui la jugeaient, à toutes ces femmes qui n'avaient pas de miséricorde par rapport à sa situation. Elle a dû sûrement accorder un pardon à toutes les personnes qui l'ont offensée. Ben, je pense qu'elle l'a fait parce qu'une fois qu'elle a rencontré, après sa rencontre avec Jésus, elle est tellement libre. Et elle qui venait au puits pour éviter le regard des autres, elle repart libre, elle court dans le village, dire, hey, venez voir un homme, il m'a dit toute ma vie, là. Yeah! Une fois qu'on sait qu'on est guéri et puis qu'on est libre, c'est qu'on peut parler de son passé sans qu'il nous fasse mal. Là, on sait qu'on est guéri. Quand on peut parler de notre passé sans qu'il nous fasse mal, puis qu'on peut en parler librement. Et cette femme, elle vient de rencontrer Jésus, qui a guéri ses entrailles. Et Jésus veut venir mettre un terme à ce qui s'est passé à Sichem. Division, trahison, parce que Joseph s'est fait trahir par ses frères. Dina qui s'est fait violer. Il veut mettre un terme à tout ça. Il est celui qui vient te sauver. Il est le sauveur du monde qui vient et qui dit stop, qui met un terme à toute la violence de la haine et du péché qui pourrait agir dans nos vies. Pour terminer, ce serait intéressant de faire une petite prière. Que chacun puisse faire une petite prière. Et faire cette prière. Jésus, est-ce que, ou maintenant, hein, est-ce que je devrais accorder un pardon à quelqu'un? C'est des fois dans nos vies, on est là, tout va bien, le Seigneur il est avec nous, puis hein, on veut être positif. Mais des fois de s'arrêter et de pouvoir faire cette petite prière et de dire, Seigneur, est-ce que je dois accorder un pardon à quelqu'un? On peut être étonné de ce qui nous vient, dans ce qu'on reçoit. Et si on veut être libre de notre passé, il est important de pardonner à celui qui nous a offensés. Je terminerai par un petit témoignage au niveau du pardon. Quand un jour, quelqu'un m'a dit quelque chose, puis j'ai pas été offensé. J'ai fait le canard. Tu sais, ce canard, il va dans l'eau sans être mouillé. Et sa parole, j'ai réussi à la gérer. Elle est pas venue m'offenser. Puis Jésus, il m'a dit, écoute, il faut que tu accordes un pardon à ce qui t'a dit. Puis j'ai dit à Jésus, mais il m'a pas offensé. Il m'a dit, accorde-lui quand même un pardon. Et au moment où je lui ai accordé un pardon à cette personne dans ce qu'elle m'a dit, j'ai senti dans l'esprit, hein, j'ai vu cette image comme une beuse de vache qui était sur mon habit blanc qui est tombée. Et je me suis dit, ah ouais, je réalise que des fois, on n'accorde même pas assez souvent des pardons, dans le sens que la beuse de vache, elle attire les mouches. Hein. Et il est dit dans la parole de Dieu que le diable, il est le prince des mouches. Et des fois, il y a des gens qui nous parlent puis qui nous disent des choses sur nous. Ok, j'ai peut-être pas été offensé, mais ça a sali ton habit. Accorde-lui un pardon. Parce qu'après tout, il y a les mouches qui viennent sur toi, qui tournent autour. Puis des fois, tu te dis, mais pourquoi j'ai ces pensées? Pourquoi j'ai ceci, j'ai ça? Ah ouais. C'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui a dit quelque chose contre toi et puis que t'as comme une buzz. Ça attire les mouches. OK? Alors, simplement, en silence, tu peux répéter cette prière. Seigneur Jésus, est-ce que je devrais accorder un pardon à quelqu'un ce matin? Si tu as reçu une personne, des fois, c'est un mot, bien, tout de suite, tu as fait cette prière, tu as pensé à quelqu'un, ben, de sûr, c'est elle ou c'est lui. Et puis, tu peux faire cette prière maintenant. Père, je lui pardonne, c'est bien de citer son nom, puis d'être clair dans ce qu'elle t'a fait ou de ce qu'il t'a fait, et de qu'est-ce que tu lui pardonnes. Pour le citer, alors Père, je pardonne à tel et tel hein, ce qu'il m'a fait, je lui fais grâce, je le libère de mon jugement, je ne tiens plus compte de ce qu'il m'a fait, de ce qu'elle m'a fait. Je me libère de son acte ou de ses paroles. Je lui redonne ce qui lui appartient et je reprends ce qu'il m'appartient. Le nom de Jésus, Amen. Amen. Et des fois, quand on a été pris par de l'injustice, il y a comme des choses qui nous ont été volées. Alors on veut se libérer des gens, on se sépare, on se libère, on redonne à la personne ce qui lui appartient, puis on reprend de nous de ce qui nous appartient. Et c'est toujours aussi intéressant de pouvoir dans la prière dire, OK Seigneur, qu'est-ce qui m'appartient? Dans cette situation, il y a quelque chose qui a été, hein? Qu'est-ce qui m'appartient? Et par exemple, dans des témoignages liés à la sexualité où des gens ont vécu des abus ou autres, souvent et la plupart des gens, ils reçoivent de Dieu l'innocence, la pureté. Et même une fois, j'avais entendu un témoignage d'une femme qui se prostituait, qui est venue au Seigneur, et Dieu lui a dit, à mes yeux, tu es vierge. Ça, c'est Jésus qui guérit et qui restaure les vies. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.